pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu goûtes ça.
Ma grand-mère, elle faisait une terrine, un pâté en croûte au foie gras qui était une pure merveille. Mais on reste avec cette nostalgie du pâté en croûte au foie gras de ma grand-mère, ma sœur et moi. Et toutes les deux, nous avons essayé, on n'est jamais arrivé à obtenir ce résultat-là, vraiment. Mais c'est comme elle faisait une espèce de ragoût dans une marmite. On a la recette, on a tout essayé, et bien on n'y est pas arrivé.
J'ai vécu avec ma grand-mère longtemps, et puis elle avait un prénom extraordinaire, Isidoria. Elle faisait le pain, elle faisait tout. Et puis, c'était surtout... Il y avait une cheminée énorme et ma grand-mère travaillait dans des chaudrons, dans la cheminée. Ça, j'ai un souvenir inoubliable. C'était beaucoup des choses de longue cuisson, mitonnées.
Vous dites que votre grand-mère Louise, c'était le poulet rôti du dimanche soir, avec des frites qu'on trempait dans la sauce, c'est ça?
C'est ça, ouais. Qui s'imbibait un peu du jus de poulet qui devenait un peu molle, mais c'était très très bon.
Isidoria pour Alain Sandrins, Louise pour Hélène Darroze et pour nous tous, mémé, mamita, granny, grand-maman, mère-grand. Les petits noms changent, mais une chose reste, la figure tutélaire et universelle de la grand-mère. La grand-mère dont on refait avec plus ou moins de succès le navarin d'agneau, la grand-mère qui nous laissait lécher le plat à gâteau, la grand-mère qui porte sur ses épaules et dans ses casseroles rien de moins qu'un héritage familial. Bonjour à toutes et tous. Grand-mère et bon petit plat, c'est le thème qu'on aborde aujourd'hui sur le plateau dont on va déguster. Nous sommes en direct avec nos invités. Il y a d'abord Jonas Parienté, bonjour.
Bonjour.
GrandeMassProject.com, c'est là. .org, ça commence bien. C'est .org et c'est la web-série collaborative que vous avez créée, une série de courts-métrages qui a pour vocation de partager les recettes et les récits de grand-mères du monde entier. Vous allez nous expliquer comment vous vous intéressez au rôle social de la cuisine comme lien intergénérationnel. Et d'ailleurs, pendant cette émission, vous allez lever le voile ce matin sur votre nouveau film dont on entendra tout à l'heure un extrait sur une grand-mère, pas très commode, on va le voir. Un film très drôle qu'on pourra découvrir justement sur grandmassproject.org. Donc, Éric Roux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, auteur, sociologue aussi, vous êtes le porte-parole de l'OCEPOP. L'OCEPOP, l'acronyme,
Observatoire des cuisines populaires, tout simplement.
Et vous êtes également le parrain de l'édition 2016 de la Fête de la Gastronomie.
J'ai toujours pas réalisé. Hein.
Mais il n'y a rien de mal qui va vous arriver, rassurez-vous. Cette Fête de la Gastronomie se déroulera dans toute la France.
25
septembre.
Ouais, 11 000 manifestations. C'est chouette.
Et ce que vous apportez de bien dans cette manifestation précisément, c'est donc sous votre impulsion qu'a été choisi le thème, c'est précisément les cuisines populaires.
Et oui, parce que c'est les cuisines. En fait, je suis un partisan, un militant de la culture orale, de la culture de l'imprégnation. C'est bien l'académisme, les choses un petit peu carrées, sérieuses, etc. Mais la folie, le pas de côté de la cuisine populaire et donc de la tradition orale, c'est formidable parce que ça invente grave quand même.
Et une tomate farcie, c'est le menu, notamment entre autres recettes.
Oui.
D'Éric Roux, ce matin, on va voir comment on s'y prend et on va voir surtout qu'une tomate farcie a vraiment une vocation ménagère et familiale. Dans les fauteuils des chroniqueurs aujourd'hui, il y a d'abord Elvira Masson, bonjour.
Bonjour à tous.
Le suspense est à son comble ce matin. Elvira Masson va-t-elle réussir ou rater sa recette? Je suis vraiment terrible.
Ce suspense me paraît un peu biaisé.
Moi, je sais déjà que c'est bon.
C'est vrai?
Oui.
Non. Déjà, c'est à peu près présentable.
C'est vrai.
C'est un carpaccio de champignons. Mm-hmm. Et c'est une recette que je n'ai pas du tout inventée. D'abord, c'est tout simple comme recette. Elle est tirée d'un des deux livres dont je vais vous parler. Un livre de recettes familiales.
Ah, c'est donc pas de vous?
Non, c'est pas de moi.
Bon.
Ça vous voyait?
Non, mais recette familiale au menu. Elle est même assez endimanchée pour une recette familiale. Mais ça nous plaît en tout cas. Il est question, je crois, de champignons de Paris.
De champignons de Paris, de grenades et de sauce tarator.
Très bien. Ah, sauce tarator. Tiens. On laisse le suspense. On est ravis de retrouver Arnaud Daguin. Bonjour Arnaud.
Bonjour à tous.
Notre ami est ancien chef étoilé. Il est militant aussi d'une gastronomie un peu plus économe. Et il vient régulièrement dans l'émission planter son coup de lame. Comment ça s'écrit aujourd'hui, coup de lame?
Aujourd'hui, c'est un coup de dame.
Ah, un coup de dame.
De vieille dame.
Voire de grand-mère. On va voir ça. Pour interagir avec nous tout au long de l'émission, il y a Twitter avec le mot-clé on va déguster. Il y a également Facebook. Il y a notre mail on va déguster @radiofrance.com. Racontez-nous à la maison d'une phrase, la longueur d'un tweet, 140 signes, vos recettes de grand-mère. On les répercutera tout au long de cette émission. Derrière la vitre de la régie, Michel Biou, Dimitri Gronoff et Mathias Aléon. Nadia Chougui pour la préparation, Djoubaka pour la programmation musicale. On attaque cette émission par quelques actus de la semaine.
sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
Et c'est ce qui s'appelle une tournée des popotes avec Elvira qui est d'humeur noire ce matin.
Noir comme du charbon, noir comme de la réglisse.
Oui, noir comme de l'encre de sèche.
Un peu aussi,
non,
ouais.
Non, c'est ça.
Arnaud,
non,
vous avez devant vous quelque chose.
De noir.
De noir, j'ai, de brillant,
j'ai
voire de visqueux.
Quelque chose qui, à mon œil de cuisinier, ressemble à un accident. En général, quand on obtient ça et qu'on fait la cuisine, 9 fois sur 10, c'est qu'on s'est foiré quelque part.
C'est qu'on s'est foiré.
On a une petite idée
ou pas,
Eric? Sauf
que là, ça
sent
très, très, très bon.
C'est très odorant. Hein.
Voilà.
Bah,
Eric,
c'est tellement à la mode que même un producteur d'ail rose, je traduis en français, d'ail rose d'Auvergne, fait de ça.
Noirci l'ail rose.
Et c'est Barbeau qui a reçu une machine de Corée.
Pascal Barbeau,
oui.
Chef de
la France, qui a reçu une machine de Corée, mais qui est marquée qu'en coréen pour faire de l'ail noir. Donc ça lui pose beaucoup de questions.
Voilà, Eric a vendu la mèche.
Alors, solution des jeux, Elvira.
Effectivement, ce n'est pas de la réglisse, ce n'est pas du charbon visqueux, c'est de l'ail noir. Il ne s'agit pas non plus d'une nouvelle variété d'ail ou d'eau, mais du produit d'une fermentation très lente. Alors goûtez, c'est assez incroyable, vous connaissez, mais goûtez quand même.
C'est magnifique.
Chaque goût, c'est archi fondante.
Oui, il y a le goût de l'ail, une texture très moelleuse, sans la force, justement.
Sans la force, un petit goût de pickles, mais aussi quand même une petite note de réglisse, donc ce n'est pas uniquement visuel. La fermentation fait ressortir le sucre. Il y a un petit côté vinaigre balsamique aussi.
Côté friandise, clairement.
Une saveur de noix fraîche. Alors, ça sort d'où? Les Chinois, les Coréens, les Japonais s'en disputent la paternité de ce produit. Les chefs en raffolent. Vous parliez effectivement de Pascal Barbeau. On raffole notamment du fameux ail noir d'Aomori au Japon.
Oui.
Celui-ci est tout ce qu'il y a de plus français. C'est de l'ail bio. C'est le marchand d'épices parisien Tiercelin qui le propose. Alors, c'est quoi exactement? Ce sont des têtes d'ail qui sont mises à maturer pendant une quinzaine ou une vingtaine de jours dans un lieu clos. Alors, lieu clos, ça veut un peu tout et rien dire, j'ai pas les secrets de fabrication.
Mmh, il a rien voulu
à
vous
60
dire.
À 80 degrés. Mmh. On peut visiblement réussir à obtenir ce résultat à la maison dans un cuiseur à riz. Alors, c'est pas forcément super écolo, parce que je sais pas combien de temps il faut faire marcher le cuiseur. Enfin, je suis pas sûre que ce soit pas. Voilà, une dépense d'énergie.
Voilà. Kilos d'ail.
La transformation qui est quand même assez spectaculaire, enfin d'une gousse blanche pour parvenir à ce résultat noir, bah, c'est le résultat d'une très lente caramélisation et fermentation.
C'est quelque chose qu'on peut parfaitement réussir au coin du feu quand on a la chance d'avoir une cheminée, puisqu'il y a toujours un endroit qui est
c'est
à 60 degrés, quelque part bien sec, à l'abri de tout le monde, et ça coûte pas cher.
On oublie cette tête d'ail dans un
parce
coin.
Parce que c'est le hic de ce produit, celui-ci est cher.
Ah.
C'est 15 euros les deux gousses.
Ah, ah d'accord, voilà. Ok. Ouais. C'est, voilà. Eric Roux déchante.
C'était l'objet de ma remarque. Donc.
C'était bien entendu ainsi.
Bon, on va dire que c'est une petite coquetterie,
donc,
un petit condiment.
Qu'est-ce qu'on en fait? On s'en sert avec parcimonie. Une idée, Arnaud, vous le cuisinier?
Moi, j'aime bien délayer ça, c'est-à-dire que l'expanser dans autre chose.
Avec de l'huile pour faire une vinaigrette ou un condiment pour des viandes blanches.
Aussi dans une sauce de type brouée qu'on aurait pu faire avec une bonne farine complète, là. Peu de bonne huile, et après on délaye ça dedans. On a une sauce à l'ail qui est absolument formidable, et on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup.
L'ail noir de Tiercelin.
L'ail noir français de Tiercelin.
On parle d'une épicerie très très fine qui est dans
en vente en ligne
le Haut-Marais, enfin, près de la place de la République.
Exactement, Carreau du Temple.
Qui vend en ligne également. Merci beaucoup, Elvira. Mange Lille. C'est le nom d'un festival qui donne sincèrement envie de tout lâcher et de grimper dans les Hauts-de-France. La journaliste gastronomique Marie-Laure Fréchet est à l'origine de cet événement qui se déroule à Lille à partir de demain lundi et jusqu'à dimanche prochain, le 25 septembre, dans toute la ville. Vous aurez droit à Lille donc, à des dîners de chefs à quatre mains, à par exemple une exposition de vieux menus à la bibliothèque municipale. Il y a une kermesse à la Flamande, ça j'aime beaucoup. Ça c'est vendredi soir à la gare Saint-Sauveur avec des grandes tables et des barbecues, des légumes biodynamiques des Flandres, du pain au levain aux farines bio du Nord. Et vous savez qui est derrière cette grande kermesse à votre avis? Florent Laden, Blompot, on l'aime beaucoup celui-là. Florent Laden, il a tout compris ce chef. Et le bouquet final de ce marathon de la bonne bouffe à Lille, c'est dimanche prochain, le 25 septembre. Un grand marché qui se tient sur l'esplanade de la gare Saint-Sauveur. Une vingtaine de chefs de la métropole lilloise cuisineront en direct les produits d'une trentaine de producteurs locaux. Mais des producteurs, des maraîchers bio, des boulangers bio, des éleveurs de pigeons, que de sérieux artisans, avec des petits plats à 3,50€, très démocratiques. Et comme on est gentil, on va déguster, fait gagner 5 lots de 5 jetons, chaque jeton donnant accès à un plat ou une boisson. 5 lots de 5 jetons donc pour 5 auditeurs qui habitent de préférence la région. Hein. C'est plutôt quand on est à Lille qu'on va aller à ce grand marché dimanche prochain. À condition de répondre le plus rapidement possible à une question qu'a concoctée Elvira. Pour répondre, il suffit de nous envoyer la réponse à la question que vous allez entendre par mail sur onvadéguster@radiofrance.com avec votre nom, votre prénom, et vous recevrez votre voucher par mail pour accéder à ce grand marché de la gare Saint-Sauveur à Lille dimanche prochain. Question Elvira.
Quel est le nom du hareng traditionnel de Boulogne-sur-Mer qui est salé entier et non vidé, puis légèrement fumé?
Sans donner la réponse évidemment, est-ce que nos invités ont une idée? Ah, la bouche pleine, Eric Roux, j'en étais sûr, c'est une encyclopédie sur pattes. On donne la réponse. Quel est le nom du hareng traditionnel de Boulogne-sur-Mer qui est salé entier et non vidé? Précision importante, non vidé, donc plein et légèrement fumé. La réponse juste après le disque. Me demandait si c'était James Brown. Non, The Excitements. C'est bien, hein? Everything is better since you've gone. Pour réveiller les foyers et accessoirement les grands-mères.
Donc c'est ta maman qui t'a appris et le lait de poule et les crêpes.
Oui, par maman. Avant de partir à l'école, maman nous faisait un lait de poule chaud. Et nos parents nous donnaient ça l'hiver parce qu'il faisait froid. On avait 4 km pour aller à l'école à pied. Il fallait beaucoup d'énergie.
Et après, tu l'as refait à tes petits-enfants?
À mes enfants, et après, aux petits-enfants. Il faut perpétuer les bonnes choses, parce que c'est naturel. Les œufs et du lait, du sucre. Qu'est-ce que tu veux de mieux?
On va déguster.
Mamie Yoda, franchement, elle est mignonne, cette grand-mère. Alors, je crois qu'elle est bretonne, c'est bien ça? Elle avait été filmée par son petit-fils Irvine Annex.
Ouais, absolument.
Et c'est un extrait d'un des courts-métrages qui est donc en libre accès sur votre portail, grandemasseproject.org, je ne me trompe pas cette fois-ci. C'est un portail d'une web-série collaborative que vous avez fondée et qui fédère de très beaux films sur des recettes de grand-mère. D'ailleurs, je tiens à le préciser tout de suite, c'est une histoire sérieuse. C'est pas comme ça une petite lubie que vous avez eue. C'est une histoire assez sérieuse avec un projet ambitieux puisque vous avez reçu le patronage de l'UNESCO pour votre travail qui vise, je cite, à sensibiliser le grand public au patrimoine culturel immatériel par le biais d'outils numériques. Vous ne prenez pas ça à la légère?
Non, pas trop. Mais disons que, comment dire, en fait, moi j'avais envie de connecter ou de rassembler des histoires du monde entier. Et plutôt que de partir dans une option, on va dire, classique ou plus accompagnée de chaînes ou de marques, moi j'imaginais quelque chose de vraiment collectif et patrimonial. Et donc, j'ai pensé à solliciter l'UNESCO, ce qui prend un peu de temps. Ça a été une, J'allais dire une bataille, c'est peut-être pas une bataille, mais disons que c'est un processus assez long pour obtenir un patronage. Donc il faut de la patience et de l'envie. Mais je trouve que ça donne effectivement une identité au projet différente et je suis content que vous le souligniez.
Et preuve que, effectivement, c'est tout l'intérêt de ce portail. Pour paraphraser peut-être un grand chef, Alain Chapelle, qui fut 3 étoiles à Mionnet, la cuisine c'est beaucoup plus que des recettes. Là il s'agit vraiment de liens intergénérationnels, d'atmosphère familiale, de souvenirs, parfois même on le verra, de liens au pays quitté. Donc c'est d'autant plus important, même si c'est aussi de la cuisine, car chacune des recettes qui sont expliquées dans chacun de ces films fait également l'objet d'une fiche. Et là, on va revenir peut-être juste sur la définition de lait de poule, Éric Roux.
Le lait de poule, c'est de, normalement, c'est de, un peu de sucre, des jaunes d'œufs et du lait. On fait prendre ça tout doucement avec la chaleur du lait. Voilà. C'est pas une crème, une crème anglaise. Hein, c'est...
J'ai dû être mal habitué, moi. Pour moi, il y avait un peu d'armagnac.
Ah mais non, mais vous n'avez pas tort, car dans le film, justement, on voit Mamie Yoda en train de le faire. Il y a du sucre, effectivement. Elle y met même un petit peu de cannelle ou de noix de muscade. Oui. Et à la fin, un petit coup de jaja. Alors, c'est soit du bourbon, soit du whisky, soit de l'oubli, hein, c'est ça?
Elle me rassure, la bretonne. J'étais un peu inquiet.
Mamie Yoda. Dites-nous, Jonas Parienté, cette aventure est née... Ah, tiens, on me signale, d'ailleurs, au casque, attention, terminé à la maison pour la question sur le hareng. Alors, on va pas donner la réponse tout de suite, on va attendre un petit peu, mais arrêtez d'envoyer des mails. On a déjà les 5 candidats pour le marché du 25 septembre prochain à la Gare Saint-Sauveur à Lille.
J'ai leur nom.
Et vous avez leur nom, on va les citer tout à l'heure. En tout cas, ils ont trouvé visiblement assez rapidement. Elle était dure, cette question. On la rappellera tout à l'heure. Jonas Parienté, cette aventure est née, je crois, de façon très intime, puisque ce fut d'abord une histoire entre vous et une grand-mère, la vôtre.
Ouais, même moi et mes grands-mères, en fait.
Oui.
Disons qu'il y a l'origine réelle de ce projet remonte à 10 ans, quand j'avais commencé à filmer mes deux grands-mères. J'avais une grand-mère donc maternelle qui était polonaise et ma grand-mère paternelle qui est égyptienne. Et donc, il y a 10 ans, je sortais de la fac de sociologie et en fait, je voulais faire du documentaire. Et mon premier projet, c'était ça.
C'est ça.
Et en plus, en fait, je voulais pas forcément raconter quelque chose autour de la cuisine, mais le titre que j'avais imaginé, c'était Couscous Gefilte, pour justement parce que je voulais faire dialoguer à travers leurs
origines, à la
aussi
fois
leurs
arabes
recettes.
Et
exactement. Et en fait, donc, je les ai filmés assez longtemps, pendant près d'un an, toutes les deux. Et j'ai finalement abandonné le projet, d'une part parce que je suis parti vivre à l'étranger.
Vous les filmiez pas en train de cuisiner ? Vous les filmiez dans tous les actes de la vie quotidienne ?
Ouais, exactement, en train de s'habiller, en train de faire les courses, en train de tout. Mais c'est vrai que du coup, beaucoup de fois, c'était dans la cuisine. Soit parce qu'elle me faisait à manger parce que j'étais là et que forcément je suis là donc pour me faire à manger, soit parce qu'elle préparait quelque chose à quelqu'un.
Oui, j'allais dire soit parce qu'elles y étaient tout le temps dans la cuisine.
Ma grand-mère égyptienne, tout à fait. Ouais.
Voilà. Est-ce que le rôle de la grand-mère justement n'est pas encore plus important dans les familles exilées, immigrées, déracinées ? C'est-à-dire vraiment pour le coup la recette comme un bout du pays qu'on a quitté, peut-être aussi la recette comme un acte de résilience, comme une manière de soigner ce mal du pays, non ?
Ouais, absolument. Je ne sais pas si ça s'applique qu'aux grands-mères. Peut-être que pour certaines personnes, c'est les grands-pères, et peut-être que pour certaines personnes, c'est encore une autre partie de la famille. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les familles qui ont vécu un exil, la cuisine familiale, et c'est vrai que souvent, ça se traduit quand même par la présence de la grand-mère, ça a un rôle important et moi je le vois beaucoup à travers le projet. C'est quelque chose que j'espérais voir naître sous mes yeux et c'est vraiment le cas. Je reçois des propositions de réalisateurs qui participent et c'est vrai qu'il y a une assez grande majorité de gens qui sont de coins du monde où il y a eu des guerres, des migrations. Mais ça peut être aussi bien par exemple la partition de l'Inde et du Pakistan que l'ex-Yougoslavie ou dans mon cas des exils de Pologne et de d'Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale.
Car vous sélectionnez avec un jury très sérieux dont des membres ou un membre de l'UNESCO des projets de films. Ouais. Et effectivement, ça émane, comme vous le dites, de familles qui ont connu des situations de guerre conflictuelle. Preuve là encore que la recette est peut-être une façon de pommader ses plaies, entre guillemets.
Et puis de prendre la parole aussi avec pudeur quand c'est parfois trop douloureux d'évoquer le pays qu'on a quitté. C'est un biais pour en parler aussi.
Et aussi de rassembler tout le monde autour de quelque chose de commun, tout simplement.
Ouais, puis moi j'ai l'impression que c'est une façon de s'arrimer à une partie de notre identité qui est parfois dure à définir. Par exemple, moi je sais que je ressens des choses en tant que petit-fils d'Égyptien et petit-fils de Polonais qui ont perdu en plus des gens pendant la guerre ou qui ont une sorte de traumatisme d'exil. Je pourrais pas toujours le définir, je parle pas du tout les langues, je parle pas yiddish, je parle pas polonais, je parle pas arabe. Mais c'est vrai que je me sens profondément égyptien ou polonais de par la cuisine et de par les saveurs auxquelles je suis habitué.
Vous avez en quelque sorte matérialisé vos racines
qui sont là, vous faites un peu le grand écart, hein, effectivement, entre le monde séfarade, le monde ashkénaze, par justement ce que vous avez mangé, ce que vous avez absorbé, ce que votre grand-mère vous a préparé.
Ouais, absolument.
Et c'est un film d'ailleurs qu'on peut retrouver, comme pas mal d'autres, sur votre portail dont je vous laisse citer l'adresse.
grandmasproject.org.
Éric Roux.
Oui.
Cette grand-mère qu'on ramène un peu à toutes les sauces, qu'on cite un peu partout, on a entendu les grands-mères dans l'accroche de cette émission, du grand chef Alain Sandrins, d'Hélène Darroze. Est-ce que c'est selon vous une construction un peu symbolique ou est-ce qu'effectivement la grand-mère a vraiment un rôle structurant dans l'univers affectif, culturel d'un enfant qui grandit?
Comme chaque fois, quand on regarde ça de manière un peu sociale et culturelle, il faut essayer de quitter l'anecdotique pour en faire un raisonnement qui puisse être universel. C'est le but du jeu. Chacun, on a une histoire formidable, mais c'est pas tant ça qui est passionnant que de découvrir qu'en fait, la grand-mère, elle endosse plein de rôles. C'est effectivement celle de l'exil toujours, et du souvenir de l'exil et du souvenir de l'origine. Donc c'est extrêmement important. Mais on parle bien de souvenir, d'exil, de quelque chose qui est immatériel.
C'est la mémoire de la famille.
C'est la mémoire de la famille. Vous savez, c'est l'histoire de Chabrol qui dit « Ma grand-mère dans les Cévennes faisait un plat formidable. J'ai tout pris. Il a pris la casserole, la flotte, les légumes, la recette, etc. » Ça n'a jamais eu le bon goût. Et en fait, c'est ça, en fait.
Est-ce que le souvenir de la recette peut être meilleur que la recette elle-même?
Mais bien sûr, bien évidemment. C'est le souvenir qui existe. C'est pas tant la recette et c'est pas tant le goût de la recette. Mm-hmm. C'est le souvenir qui permet de se raccrocher à la construction qu'on s'est faite. En plus, il y a un élément essentiel. La grand-mère, elle est libérée de toute contingence de séduction, d'apprentissage, etc. Elle est libre. Donc c'est 100 fois plus intéressant de se raccrocher au souvenir de la grand-mère que à la maman qui vous a quand même parfois tiré une petite claque parce que vous n'y avez pas les trucs tout à fait droits et qui vous a dit faut faire. Vous savez, c'est la maman qui dit tu finis ton assiette parce qu'il y en a beaucoup dans le monde qui n'ont pas à manger.
Alors que la grand-mère, elle n'est qu'amour.
Tu fais comme tu veux. Moi, je me souviens de ma grand-mère. Elle me disait.
Ah, vous en avez eu une aussi.
Ah, mais j'en ai eu deux, totalement différentes. Mais il y en avait une qui me faisait. Ça te ferait plaisir un peu de Vichy avec du vin rouge. Et je trouvais ça génial.
À quel âge, 2 ans et demi?
Non, je devais avoir 10 ans. En fait, c'était un fond de vin rouge avec du Vichy et ça provoque un truc très bizarre. Le vin devient noir. C'était, mais extraordinaire. C'était dégueulasse, mais super bien en termes de souvenirs. Ce qui veut dire que le souvenir de la cuisine de la grand-mère n'est pas forcément bon. C'est le souvenir qui est agréable. Et c'est là où ça devient passionnant.
Souvent, on a le sentiment que la grand-mère incarne une espèce d'idéal culinaire, de perfection. La recette de la grand-mère est toujours intouchable, inatteignable. On a beau essayer, mais le goût est différent. Est-ce qu'à votre avis, ça, c'est une fantasmagorie?
Sauf que parfois, dans les films que réunit Jonas, elles sont un peu foireuses.
On va le voir dans un instant avec un extrait précis.
On n'a aucune chance, quand on est cuisinier, on n'a aucune chance face à un souvenir de plat de grand-mère. Il ne faut surtout pas se battre sur ce terrain-là. C'est voué à l'échec complètement.
Absolument. Alors, on va voir justement qu'une grand-mère peut cuisiner, on ne va pas dire médiocrement, mais ce sera lui faire injure.
Non, ouais, ça me ferait la peine pour elle.
On peut être attaché à sa grand-mère sans que celle-ci soit Ginette Mathieu, sans que ce soit une cordon bleu absolu. Preuve que, bah là encore, le temps fait son œuvre. On écoute justement l'extrait du nouveau film que vous mettez en ligne sur grandmasproject.org, que tous les gens qui nous écoutent peuvent aller voir. C'est un film formidable avec une grand-mère, on va le voir, pas fastoche.
Là, pour le moment, il y a autant de viande de porc que de viande de bœuf.
D'accord. Alors, il n'y a que ça.
Il n'y a que ça pour le moment. Alors, on prend la farine. C'est le dernier là-bas. Ensuite, on prend un œuf et du lait.
Donc du sel.
On met du sel, évidemment.
Toi, c'est ta mère qui t'a appris?
Oui, oui, forcément. Il faudrait du lait, là. En bas.
Ça va, la date est bonne?
On s'en fout de la date.
On s'en fout de la date?
Complètement.
Pourquoi?
Parce que je me fous de toutes les dates. Alors là, ce qui est important, c'est que ça soit bien mélangé, quand même.
Ouais.
Alors là, il est quand même assez recommandé, ce que j'ai pas fait, toujours de goûter.
Ah, oui, c'est vrai que t'avais pas goûté.
Non, pour voir s'il y a assez de sel. C'est la seule chose que tu peux goûter. Non, mais je veux dire, c'est pour vérifier le sel.
Pourquoi tu mets pas une herbe, par exemple?
Parce que c'est pas dans la tradition, mais on pourrait. Je pense qu'il
y a pas de, y a pas d'herbe au Danemark?
Pas beaucoup, non.
Ta mère n'en mettait pas dans les fricadelles?
Mais on n'en met pas dans les fricadelles, enfin dans ma tradition à moi. Il y a peut-être des gens qui le font.
De l'ail?
Oh non.
Quoi non?
Parce que l'ail, pas une tradition des pays scandinaves du tout. L'ail, c'est vulgaire.
L'ail, c'est vulgaire, vous avez compris, Elvira. Mangez votre ail noir, vite fait. Donc, il s'agit d'une grand-mère, effectivement, qui cuisine les fricadelles, des boulettes d'origine danoise, mais qu'on trouve aussi d'ailleurs un peu dans toute la Scandinavie.
Oui, on le trouve partout, ça s'appelle köttbullar en Suède.
Voilà. Vous avez des origines suédoises, Elvira, c'est bien ça. C'est vous nous présentez en un mot cette grand-mère, Jonas Parianté.
Oui, Sonia, donc c'est la grand-mère d'Emma Lucchini.
Oui.
Et c'est une femme.
On parle donc de l'actrice et réalisatrice, hein, Emma Lucchini.
Oui, elle est réalisatrice principale.
D'accord.
Absolument.
Et accessoirement, fille d'eux.
Et fille d'eux, absolument. Et Sonia est une femme de théâtre, en fait. Elle a accompagné Jean Villard pendant une trentaine d'années, notamment sur la création et l'administration du Festival d'Avignon.
Mm-hmm.
Donc je ne pense pas que c'est quelqu'un qui a beaucoup cuisiné, forcément. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a dû faire ses boulettes à un moment ou un autre à Emma et à ses autres petits-enfants. Et qu'Emma, quoi qu'il en soit, y est attachée. Même si ce n'est pas genre un chef-d'œuvre. Ou...
Mais ce qui est très intéressant d'ailleurs dans le film, c'est qu'à un moment donné, il y a une espèce de déclic. On voit Emma en caméra subjective qui dit « Ah, là, ça ressemble exactement à ce que j'ai connu, ce que j'ai vécu.
Ouais. »
Donc, c'est pas une affaire de dosage. C'est juste une affaire comme ça de déclic visuel, comme si le souvenir s'entrechoquait avec la réalité présente.
Elles sont particulièrement bien réussies. Et à l'œil, visuellement, on ne voit pas vraiment ce qu'elles ont particulièrement réussi.
Non, mais elles ont l'air un peu appétissantes,
oui.
Je trouve.
Éric, je crois qu'il y a un mot qui est important que cite la grand-mère, c'est « évidemment ». C'est-à-dire que la cuisine, c'est un truc évident. Il y a un système très intéressant dans ces cuisines populaires, c'est l'imprégnation. On ne te dit pas qu'il faut faire comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire.
C'est une tautologie permanente. La cuisine des grands-mères. Et on comprend bien pourquoi, parce que ça ne peut pas se transmettre autrement qu'en la faisant. Et en fait, je pense que malgré tout, les beaux efforts qui vont donner quelque chose de formidable que vous faites avec ce projet-là, il y a un truc qui ne passera pas au travers, c'est la cuisine elle-même. La cuisine elle-même ne passe pas à travers quelques médias que ce soit, y compris pas par la radio qu'on est en train de faire. La cuisine... Pour pouvoir l'échanger, il faut la vivre.
C'est une cuisine de l'oralité, ouais. En quelque sorte.
Complètement. C'est Bruno Latour, c'est un philosophe qui dit une chose très juste sur les traditions orales. On est toujours des transformateurs fidèles. Je suis bien fidèle par rapport à ce que j'ai appris, mais je suis forcément un transformateur, puisque quand je fais, je ne suis plus dans la même époque, je ne suis plus la même personne. Et là, on a vraiment... toute la richesse, le foisonnement, l'invention permanente de ce que sont les cuisines populaires.
On n'est pas dans une cuisine académique. Hein. Voilà.
C'est notre nature d'humain, ça, puisque nos grands savants nous le disent. Tous les souvenirs qu'on a, on les refabrique chaque fois.
Allez, on fait une petite pause. Elvira, juste avant, on est submergé de bonnes réponses pour ce marché de Lille dimanche prochain. Vous répétez la question et on a la réponse. Hein.
La question était la suivante. Quel est le nom du hareng traditionnel de Boulogne-sur-Mer qui est salé entier et non vidé, puis légèrement fumé?
J'ai précisé qu'Éric Roux, Arnaud Daguin avait la réponse.
Bouffi!
Oui.
Avec les rogues.
B-O-U, 2-F-I. Hein, ah, effectivement, le hareng est plein. Et les cinq lots de jetons reviennent à cinq auditeurs.
Je vous donne leur nom.
Oui.
Bertrand Carpentier, Laurence Duchien, Cédric Rousseau-Gros, Pauline Thurier et N. Talleux. Je ne sais pas qui est N.
Bravo à tous les cinq. Si vous avez un souvenir gourmand ou une recette de grand-mère à nous raconter, il y a des petits témoignages qui arrivent. Un tweet avec le mot-clé « On va déguster » ou un mail « On va déguster » à radiofrance.com. On se retrouve dans un instant. Bonne journée sur France Inter.
Il y a une fille qui penche, une robe de tennis blanche, et la peau qui a froid, il y a ça. Il y a un sentiment sur un terrain, vaguement. Avant toi, je venais là, elle dit ça. Je ne veux pas mourir ce soir. Il y a une fille qui penche les deux mains dans les manches. Il y a un soir d'été démodé. Il y a une ville autour. Il y a la fin du jour. Il y a un cœur qui bat. Il y a ça. Je ne veux pas mourir ce soir. Il y a une fille qui penche une robe des tennis blanches. Il y a un sentiment sur un terrain vaguement. Il y a une fille qui penche les deux mains dans les manches. Il y a une ville autour, il y a la fin du jour.
Une odeur et un goût de sucré irremplaçable sont ceux de la confiture à la rhubarbe de ma grand-mère, qu'elle confectionnait dans une immense marmite qui enfant me paraissait plus grosse que moi. Dès que je pense à ma grand-mère, je pense à cette image et à cette odeur. Donc c'est clair, ma grand-mère sent la rhubarbe.
Ma grand-mère sans la rhubarbe, ça vous rappelle quelque chose, Elvira ?
Ouais. C'était un spectacle dont on avait parlé. On avait invité son auteur et metteur en scène, Marc Fayet.
Il est top.
C'était super. Hein.
Ouais, il est top.
Très joli spectacle.
Ouais. Hein. Ah ouais.
Le spectacle s'appelait À chacun sa Madeleine. Ça avait été joué notamment au Théâtre de Paris, dans
absolument.
Le 9e.
Ouais. Rue Blanche.
Et il l'avait écrit à partir de témoignages qu'il avait récoltés, voilà, de souvenirs culinaires d'enfance, de grand-mère
super
ou pas
spectacle.
De grand-mère.
Ouais. Oui,
super
oui, très
spectacle.
Bien. On l'avait invité d'ailleurs dans cette émission. Marc Fayet, la grand-mère comme figure tutélaire et culinaire, c'est le thème dont on va déguster aujourd'hui, avec pas mal de témoignages qui se bousculent sur notre mail, Elvira.
Notamment celui de Clélie, qui nous parle d'un repas venu de sa grand-mère paternelle, mis sur la table par sa mère régulièrement pendant son enfance, le dimanche soir surtout, après le bain. Mm-hmm. Les œufs battus, crus, énergiquement battus, avec sel et surtout poivre, on y jette du pain déchiqueté, on touille. Ouf. Et on mange vite avant que les œufs ne ramollissent trop le pain. J'adore, je mets un point d'honneur à en faire à ma fille pour faire vivre la tradition.
Ça, c'est bien ménagé, ça permet de recycler du pain rassis. Oui. Très bonne idée.
Alors, c'est exactement ce principe de la cuisine de l'oralité. Quoi. C'est rien, si ce n'est que c'est formidable parce qu'on l'a mangé.
Nourrir vite et bien.
En parlant de pain rassis, justement, vous en mettez un peu dans vos tomates farcies ou
toujours,
pas?
Toujours, jamais de tomates remplies avec de la viande hachée, préachetée.
Vous avez raison.
Mais non, mais...
C'est une recette de recyclage.
C'est en fait toute la cuisine, c'est tout, perpétuellement du recyclage. La tomate,
d'accord.
En ce moment,
allons-y.
On est au mois de septembre. Faut
c'est
pas hésiter.
Fin,
ah non, on en a encore pour un 15 mois.
15 jours.
Ah non, oui, encore. Quoi. J'ai regardé les tomates à mettre en conserve bio, producteurs, etc. sur le marché Saint-Joseph à Clermont, 1,20€. Il y a pas hésité. Je fonce dedans. Il y en a toujours des belles. Je creuse. Je fais tremper du pain dans du lait ou du bouillon ou de la flotte si j'ai pas autre chose. Et puis j'ai un reste de viande. Alors tout, hein, une daube, un pot-au-feu, une poule au pot, un jarret de veau en bouillon, un peu de bœuf carotte, un peu de viande de couscous. Ce que j'ai, faut compter à peu près le tiers de pain trempé par rapport à la viande, plein d'herbes. Aller sur les blettes, les épinards, un cœur de salade qui reste, une poignée de feuilles de sauge, de thym, de romarin,
du
de sarriette. Vraiment ce qu'on a, on sale, on poivre. On met un peu de bouillon si c'est un petit peu trop épais. On garnit la tomate avec ça et on glisse au four avec le chapeau qu'on a posé dessus et on oublie. 160 degrés, faut que ça rime. En occitan, il y a un terme qui s'appelle rimar. Rimar, c'est cuire tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. C'est vraiment, il faut que ça soit confit. On vérifie juste que ça soit pas trop sec.
À la limite, on les oublie.
On les oublie. Et là, c'est un... Non mais sérieusement, c'est Jésus en culotte de velours qui vous laisse dans la gorge.
Vous l'avez fantasmé ce plat ou vous l'avez vraiment mangé quand vous étiez petit avec une grand-mère aimante?
Mais moi j'en fais toujours.
Ah.
J'en fais toujours dès que j'ai un bout de salé, Arnaud, bout de salé, un talon de jambon comme ça. Mais c'est Broadway avec la lumière, quoi. Ça clignote tellement c'est bon.
La tomate farcie selon Éric Roux, à retrouver évidemment avec toute la prose et la verve d'Éric Roux, car il n'écrit pas ses recettes de façon académique, avec des proportions, etc. Il vous les raconte comme des historiettes, et ça marche très bien, à retrouver sur franceinter.fr, à la page On va déguster.
Le coup de l'âme d'Arnaud Daguin.
Cuisinière, cuisinier, gérontophile, gérontophobe. Posons aujourd'hui une question de grand-mère. Grand-mère, ta cuisine, est-ce celle que tu nous as donnée ou bien celle que nous te devons?
Bah mon vieux, ça part fort, hein?
Si, seigneur. Il fut un temps pas si lointain où on gardait grand-maman à la maison jusqu'au bout. les inconvénients liés à son entretien, nourriture, nettoyage, etc., étant considérés comme un juste renvoi d'ascenseur pour service rendu. Gracias abuelita pour ton gazpacho, merci mamé pour ton pot-au-feu, mileshker amachi pour ton hachoa. Époque révolue, aujourd'hui, hop, à l'établissement pour personnes âgées dépendantes, l'EHPAD. L'EHPAD, l'EHPAD, oui mais que mange mamie?
Oh, il a osé.
Oui mais que mange mamie? Bien sûr, on s'occupe soigneusement de Granny, bien sûr on médicalise, on aseptise, on fait très attention à ce qu'elle n'attrape aucune cochonnerie. On craint la salmonelle sournoise, le botulis perfide, la listeria assassine, mais voilà, que fait-on de son plaisir? Mais enfin, me direz-vous, fidèle au poncif, les vieux y perdent le goût. Non, ils l'ont juste égaré, comme leurs lunettes, faut juste les aider à la retrouver. Faisons à l'aïeul une cuisine qui concentre les saveurs, les couleurs et donc les nutriments, car oui, François-Régis, vous le savez, c'est la même chose.
Ah bon?
Mais oui, le rouge de la tomate, l'oranger de la carotte, le vert de la peau de concombre, ce sont les lycopènes, les carotènes, les stérols végétaux, tout ce qui garde les joues de mamie bien roses. La couleur, c'est la vie. Et pour que son esprit reste aussi vif que son teint, cuisinons-lui du souvenir, de l'évocateur. Je suis sûr qu'on peut combattre l'Alzheimer à coups de piperade. En cuisine collective aujourd'hui, on consacre un temps infini à des pratiques qui désinguent la plupart des micronutriments, donc le goût. Et ensuite, on s'escrime à essayer d'en remettre du goût, hein, parce que les micronutriments, eux, bye bye. Et ça, avec force poudre de perlimpinpin, sel, épices, bouillon cube, censé ranimer la carotte exsangue. Mais non, c'est le vrai goût concentré qu'il faut à mère grand. Du costaud en bouche, même si elle n'y a plus trop dedans. Des jus réduits, des consommés amples, des purées soyeuses, corsées.
Eh bien justement, une recette pour mère grand, Arnaud Daguin, s'il vous plaît.
Allez, comment? Un gratin goûteux pour nourrir mémé.
Écoutez bien, un gratin goûteux.
Nourrir mémé. Pardon, excusez-moi Charles, excusez-moi.
Il se prend pour Aznavour.
Il vous faut une belle courge en morceaux, pas trop épais. Une gousse d'aïeux. Quelques oignons pas trop jeunes et du vin rouge vieux.
Du vin rouge?
Bien sûr. Vinum laxenum, comme disaient nos ancêtres les Romains. Le vin et le lait des vieillards. Il vous faudra aussi quelques tranches fines d'un brebis vénérable.
Un brebis, basque, vous voulez sûr. Parler d'un fromage, hein?
Ben oui, ben bien sûr. Et un peu d'huile d'olive. Alors on y va. On y amince les oignons, on écrase l'ail, on noie tout ça dans le vin rouge dans une casserole épaisse et on fait mijoter ça à tout peu. Petit feu, ça c'est la vitesse des bulles, jusqu'à obtenir une confiture. On remouille à l'occasion. On serre les gros morceaux de courge sur la plaque du four, un pchit d'huile d'olive et hop, à 180, demi-heure en gros.
On l'appelle la courge ?
Comment ?
On l'appelle la courge ?
J'y arrive, ma chère. Là, ils sont bien dorés et tendres à l'intérieur. Donc on les laisse un peu refroidir et là, on enlève la peau si elle est trop ferme, Elvira. Mais il y a beaucoup de courges dont on mange la peau volontiers quand elle est rôtie. Puis on en fait une purée grossière avec le reste d'huile d'olive. Et là, on monte le plat. La moitié de la purée au fond du plat à gratin, une fine couche de fromage, la compote d'oignon au vin rouge par-dessus, une autre fine couche de fromage, et le reste de la purée de courge par-dessus. On parsème de fromage pour la joie. 40 minutes de four à 160, et voilà le gratin de jouvence. Bonne maman, se met au skate, et il faudra attendre un peu pour l'héritage encore. Mais... Allez, nourrissez-vous les uns les autres, et vivez longtemps.
Si, seigneur.
Waouh, il est déchaîné, Arnaud Daguin, ce matin. Très bien, ça vous branche ou pas son gratin? Observez qu'il n'y a aucune chair animale. Hein.
Oui, oui, non, mais c'est vachement bien, moi je trouve ça top. Hein.
On est dans quelque chose de flexitarien. C'est la cuisine qui vous parle en fait, Eric Roux. On a tendance à voir ces dernières années la cuisine comme un acte de chef étoilé, comme une espèce de performance, comme des gestes techniques. Pour vous, la cuisine, c'est beaucoup plus que cela. La cuisine des grands chefs, elle aurait un peu tendance à vous ennuyer, non?
C'est pas qu'elle m'ennuie, c'est formidable. Mais heureusement pour nous que la cuisine n'est pas laissée aux chefs. Que tout le monde fait à manger et que il y a plein de... Je crois que on s'est un peu trop facilement enfermé dans l'histoire. Les chefs sont des créateurs, des artistes, etc. Peut-être. Et les gens à la maison sont des mauvais consommateurs qui achètent des plats tout faits, etc. C'est pas vrai.
Pas vrai.
Parce qu'on n'a pas forcément les moyens, parce que on n'a pas forcément envie, parce qu'il y a plein de trucs à faire tous les jours et que c'est en fait c'est ça la cuisine, c'est cette découverte de comment je vais vivre avec les gens avec qui j'ai choisi de vivre. C'est pas autre chose.
D'ailleurs,
donc, d'ailleurs.
Ben d'ailleurs, vous contribuez cette année à réorienter un peu la fête de la gastronomie, le mot même gastronomie comportant quand même une connotation un peu élitiste, et vous contribuez à tirer un peu la gastronomie vers le bas, mais dans le bon sens du terme.
Oui, c'est le bas de tout le monde.
Pour moi, c'est vers le haut.
Mais on est d'accord, mais quand je disais que c'était dans le bon sens du terme, je le précise.
Mais c'est, attention, hein, y a pas d'histoire d'opposition. C'est deux mondes différents. Exactement comme entre le gars qui a appris à jouer du violon dans son coin, sans passer par la partition, et qui joue divinement bien. On a tous en tête la musique des Taraf roumains, où ça envoie du bois grave, et ils sont passés par l'académie. Et la cuisine.
Le génie culinaire,
c'est pas les deux mêmes mondes, c'est juste ça. Et je crois que le problème, c'est que jusqu'à présent, cette cuisine qu'on appelle populaire parce qu'on n'a pas de terme plus efficace, était un peu invisible. C'est pas très intéressant, quoi. C'est plus intéressant de parler de la cuisine académique. Pourtant, c'est vraiment notre manière d'inventer le monde entre nous. Vous savez, je reviens sur la chronique de Arnaud qui était top. C'est une fois Poulain qui me disait... Jean-Pierre Poulain, sociologue de l'alimentation.
Il est à l'université de Toulouse.
De Toulouse et de Kuala Lumpur. Et il fait une enquête sur la nourriture à l'hôpital à Toulouse. Et il y a une vieille dame qui lui demande, ça va pas, vous n'êtes pas heureuse? Elle fait non, j'ai envie d'une soupe de fèves.
Ah.
À quoi tient en fait le chemin,
pas cher.
Ah ouais. À quoi tient en fait le chemin de la guérison, du plaisir,
oui,
etc. C'est, et là, on a vraiment quelque chose qui est essentiel. Je pense que les cuisines populaires ne sont pas intéressantes parce que c'est des recettes. Elles sont intéressantes parce que c'est un enjeu économique, politique au sens de comment vivons-nous ensemble, social, de quelle société on fabrique, et culturel parce que Jonas le raconte bien. C'est notre part de nous-mêmes que l'on transporte où on veut, quand on veut et comme on veut. C'est ça, en fait, les cuisines populaires.
Preuve que vous imprimez votre impulsion sur la fête de la gastronomie qui aura lieu dans toute la France les 23, 24 et 25 septembre prochains. Un petit exemple d'événement comme ça qui vous touche au cœur.
Deux.
Oui.
Vaux-en-Velin, il y a un truc formidable où on apprend à cuisiner entre communautés. Hein, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a 1/5 de la population française, mon cas, le cas de Jonas, on est originaire d'un peu d'ailleurs. Mmh. Et il faut partager, en fait, ce petit bagage qu'on a tous dans notre creux de ventre, de creux d'esprit. Et puis, même s'ils ont gagné hier soir, Clermont-Ferrand, c'est quand même ma ville.
Oh là là, quel chemin. Car vous nous venez de Clermont-Ferrand, effectivement.
Mais oui, mais j'ai toujours travaillé à Paris et toujours habité Clermont. C'est une position plouc à Paris, Parigo à Clermont. Et le truc, c'est que grâce au maire et grâce aux services techniques, il va se passer quelque chose dans presque toutes les rues de Clermont-Ferrand. Tous les artisans, tous les commerçants, tous les restaurateurs se sont mis et ont dit on fait goûter. Donc on veut faire une bagnode comme ça dans Clermont en pitant à droite et à gauche ce qu'il y a à manger du nem du vietnamien en passant par les bolognese de bacalhau des portugais, en passant par la tête de veau. On vit ensemble, bon sang de bois, c'est là très qu'il bien. Faut le fabriquer.
Un deuxième événement, c'est donc Clermont-Ferrand et Vaux-en-Velin.
Ouais,
deux événements.
C'est parfait. Tu m'as dit deux, attends.
T'es entièrement réglo et très discipliné, ça change.
Non, c'est parfait. On tient à préciser à tous les auditeurs à la maison, ça ils n'ont pas l'image, mais que Eric Roux nous a rapporté une sélection de fromages de son pays.
Mais qui est-ce
ainsi que
bien.
Des vins.
Fourme de Rochefort, fourme de Vassivière, bleu au lait cru.
Ça c'est la fourme de Rochefort.
Non. Ouais.
La non, ça c'est
Rochefort,
bleu lait cru, bien sûr.
La forme de Rochefort est là-bas.
Oh là là,
vous avez goûté ça, François Régis, la forme de Rochefort?
Ouais, c'est un peu incroyable. C'est absolument formidable.
Jonas Parienté, vous mangez du fromage?
Absolument.
Réinsistons un peu sur grandemazeproject.org, car vous tenez à la dimension participative de votre projet. On peut effectivement aller sur votre portail visionner. On en a entendu des extraits de très jolis films sur des recettes de grand-mère. On peut aussi collaborer en proposant soit des photos, soit un projet de film.
Oui, exactement. En gros, on est toujours.
Le principe en un mot.
Alors le principe, il y en a deux. Pour les réalisateurs, de nous envoyer une candidature, mais qui est donc un projet de film, pas un film terminé.
Il faut être réalisateur de métier.
Réalisateur de métier. On ouvre aussi aux étudiants en cinéma.
D'accord.
Et aux artistes visuels.
En gros, intéressant.
Il faut avoir un sens de la narration et de l'image. Mais après, l'idée, c'est d'avoir justement des formes assez différentes d'un film à l'autre. D'ailleurs, les cinq films qui sont en ligne sont assez... leur grammaire visuelle est assez différente à chaque fois.
Il faut que je trouve d'ailleurs que même la démarche ne serait-ce que artistique, esthétique et formidable. C'est des films beaux à regarder, en plus d'être alléchants ou émouvants.
Tant mieux, j'en suis ravi. Et donc, pour les gens qui ne sont pas réalisateurs, qui concernent donc la grande majorité des gens, on a créé un nouvel outil, en fait, on va dire à la demande populaire, pour que les gens puissent justement nous envoyer des histoires et une photo de leur grand-mère, de manière très simple. Et là, il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de tri. C'est juste, voilà, il y a trois cases à remplir, une photo à envoyer. Et donc là, on a déjà une soixantaine, presque une centaine de contributions qui viennent du monde entier. Donc c'est assez génial. Et j'espère que des auditeurs de France Inter participeront.
Absolument, ça vous allez voir que vous allez avoir du monde, puisque on est vraiment en soutien total avec votre initiative. Molo Reya, est-ce que je prononce bien ?
Absolument.
C'est la recette de votre grand-mère égyptienne.
C'est ça.
Juive égyptienne.
Ouais.
Il s'agit là d'un plat, vous nous en dites un mot. C'est très particulier, c'est noir ou vert.
Ouais, ça plutôt vert foncé, effectivement. Ouais. C'est une sorte de ragoût, donc si je veux dire ça très simplement, c'est le bœuf bourguignon égyptien.
C'est ça.
Vous m'avez appris juste avant le début de l'émission qu'on disait Corette pour le...
C'est bien ça, Eric Roux.
Oui, Corette,
ouais. Voilà, Molo Reya, il s'agit donc d'une herbe potagère, en quelque sorte.
C'est le nom du plat et de l'herbe.
C'est le nom du plat et de l'herbe.
C'est le plat qui a pris le nom de son principal ingrédient.
C'est une herbe passionnante parce que c'est une herbe qui est à la limite du jardin. Elle n'est ni totalement sauvage, ni réellement culturelle. Et là, on est vraiment sur ce qu'est la cuisine. Je vais chercher un peu à côté pour le faire rentrer dans mon imaginaire du monde.
Le périmètre géographique de la Molo Reya.
Alors moi je connais la libanaise, l'égyptienne qui sont assez proches et la tunisienne qui pour le coup est différente. Enfin c'est bien sûr la même herbe mais la recette et le plat est différent. C'est plus une sauce qui se dans laquelle on trempe du pain. Potentiellement
y a une version sicilienne qui est formée.
Une version sicilienne.
Absolument.
Bon, de toute façon c'est un bassin culturel
passionnant proche. Et puis qui raconte d'ailleurs justement le aussi l'arabisation du sud de l'Europe, etc. Molo Reya, vous la mangez encore chez votre grand-mère ?
Ah ouais absolument. Ouais.
Et elle est bonne.
Elle est délicieuse.
Regarde son sourire, regarde. On est invité quand en fait?
Très prochainement.
C'est vrai?
Ah ouais, franchement, c'est faisable.
Ça nous ferait vraiment plaisir.
Bah avec plaisir. J'aurais dû amener quelque chose si j'avais su.
Oui, j'ai
Eric m'a battu avec le fromage, mais.
C'est votre grand-mère égyptienne.
Vous êtes venu avec un très beau projet sous le bras.
Qui a toujours des congélateurs et des réfrigérateurs pleins de viande et qui essaie de tout vous fourguer quand vous repartez.
Absolument.
Des kilos et des kilos de viande dans son.
Mais alors maintenant, ça a pris une autre dimension. C'est qu'en fait, c'est pas que de la viande ou des plats congelés. Elle vient chez moi avec des courses entières et donc elle pense que je peux pas. Enfin, c'est mignon, hein, mais disons qu'elle m'amène genre des fruits ou des épices, comme si je pouvais pas les trouver en bas de chez moi.
Génial.
Donc il faut que je mange, il faut que je mange bien.
Elles sont toutes les mêmes. C'est grand-mère. Elle n'est pas encore grand-mère pour l'instant, mais en tout cas, elle cuisine déjà.
Serait un peu précoce.
Mettez le couvert. On va déguster sur France Inter.
Et il est sacrément beau ce carpaccio de champignons de Paris,
pas mal,
quand même.
Ouais.
C'est des graines de grenade ?
Des graines de grenade.
Un peu d'herbe.
Champignons de Paris détaillés finement.
Persil ?
Un petit peu de persil. Dans la recette de départ, c'est de la ciboulette.
Oui.
Et une petite sauce tarator.
Sauce tarator.
Kezako.
Petite sauce orientale.
Ne me dites pas qu'on va coller
Eric Roux. Non, mais il essaie de me piéger là.
Non, pas du tout.
gousse d'ail pressée, un petit peu de tahine, purée de pois chiche, délayée avec un petit peu purée de sésame, délayée avec un petit peu d'eau, de jus de citron. Moi, j'ai ajouté un peu de yaourt, ce qui est pas vraiment dans la recette d'origine. Mais j'y viens. C'est une recette tirée d'un des deux livres dont je vous parle.
Et oui.
Livre de recettes pour enfants ou livre de recettes pour cuisiner avec ses enfants.
Mm-hmm.
C'est devenu un peu un filon. À chaque mi-août, les librairies commencent à se garnir, voilà, de livres dédiés aux enfants, à leurs parents pour la rentrée.
C'est même un raz-de-marée, on peut dire.
Ouais. Alors, c'est souvent un peu artificiel. Ce sont des recettes pas toujours très faisables, assez peu en phase avec ce qui peut être la vie de parents qui travaillent et qui n'ont pas forcément envie de passer 4 heures à repeindre les murs de la cuisine après le passage en cuisine de leurs enfants. Et j'ai eu un peu tendance à penser, moi, régulièrement, que depuis le livre de Michel Oliver en 1963, la cuisine est un jeu d'enfant.
On
n'a pas forcément
avec les beaux dessins de Michel Oliver.
C'est vrai,
grand
ça.
Chose de mieux. Alors, j'étais plutôt agréablement surprise par deux livres qui viennent de paraître.
Le premier, Carrie Solomon. Ah, on la connaît, elle est américaine. Ouais. Elle était venue notamment déjà pour une émission sur la cuisine Yankee.
Exactement.
Food avec les kids aux éditions La Martinière. Ouais. Ça plaira aux amateurs d'anglicisme.
Alors, justement, elle assume son côté américain et son côté un peu décomplexé et assez américain dans l'assiette aussi. C'est un livre qui coûte 19,90€, 150 pages. Le titre annonce la couleur. Elle est effectivement américaine. On l'avait reçue pour Thanksgiving, c'est ça ?
C'est ça, exactement.
Son but, c'est vraiment d'amuser les enfants, que ce soit bon et sain au passage. C'est plutôt un livre dont la mission est de décoincer les enfants qui auraient un blocage sur certains aliments ou qui feraient... On connaît la fameuse phase des 2 à 3 ans, ils n'aiment plus ce qu'ils aimaient encore 2 semaines avant. Donc,
elle est débloquée à coups de pâte de cacahuètes, voilà. Etc.
Non, mais il n'y a pas que ça.
À l'américaine.
Donc, on est beaucoup effectivement dans la tartine en forme de bonhomme, les assiettes de toutes les couleurs, la galette lanterne au potiron. Pour autant, c'est pas gadget, quoique un tout petit peu quand même.
C'est un peu travaux manuels ?
C'est un peu loisir créatif, c'est exactement ça. Mmh. C'est entre cuisine et loisir créatif. Pour les meilleures recettes, on est du côté de frites à la polenta, de pancakes, de légumes râpés. C'est vachement bien ça. Carottes, courgettes, betteraves crues râpées mélangées avec une pâte à pancakes. Alors attention, on fait gaffe à la râpe, évidemment. Ou encore plein d'idées de finger... plein d'idées de finger sandwiches qu'elle prépare pour la sortie de l'école, autrement plus équilibrées que le biscuit industriel du supermarché du coin.
Ou les Esquimaux. Les Esquimaux
au yaourt et aux fruits.
Pas mal, ça.
Des idées assez malines comme ça, effectivement assez anglo-saxonnes. Et au rayon du pire, on a la tartine de peanut butter, myrtille et banane dont on pourrait se passer.
Voilà. Sans le chocolat ?
Sans le chocolat, oui, étonnamment.
Est-ce que vous allez vous en servir, Elvira ?
Sans doute oui, pendant quelques vacances, quelques week-ends ou vacances de la Toussaint pluvieuse. Il faut quand même avoir un petit peu de temps. Quoi.
Deuxième livre, Laura Enhardt, À table, ouais. Recette facile et très bonne pour toute la famille. Et ça, c'est aux éditions Solar.
Ça, c'est un gros travail. 300 pages, 24,90 €.
Passez-le à notre ami
Signé d'une spécialiste de la cuisine pour et avec les enfants. Laura, dite maman chef, qui anime par ailleurs des ateliers.
Il est pas mal du tout ce livre, hein. Je peux vous assurer.
Laura, on la connaît.
Oui,
bien sûr, Laura Enhardt,
c'est un sacré incontournable. Son but, rien de moins que de proposer une nouvelle bible de la cuisine familiale, c'est-à-dire des recettes pensées pour plaire aux enfants qui peuvent éventuellement mettre la main à la pâte, mais ce n'est pas le but de la manœuvre, c'est vraiment un livre de cuisine familiale.
Je suis personnellement très opposé à ce qu'on fasse une cuisine qui plaise aux enfants.
Pourquoi ?
Parce que je suis un vieux con. Ah bah... je pense que les enfants, en fait, ils suivent le mouvement. On vient de le dire pendant toute l'heure là. Et si la grand-mère.
300% d'accord avec
la grand-mère n'a jamais pensé quoi que ce soit.
Cette optique-là,
elle a juste transmis quelque chose qui la transcende parce que.
Faut cuisiner à ses enfants spontanément comme pour
elle. Et ça ira bien plus loin qu'elle. Voilà.
Donc le livre est très bien fait, très accessible, très complet. On sent que ça a été très bien réfléchi, pensé, vraiment éprouvé auprès d'enfants, d'ados, etc.
Mais c'est pas particulièrement là où
non,
ce livre est bien.
C'est un livre de cuisine familiale.
Ce que vous dites, non. C'est que c'est un livre de cuisine familiale et je peux vous assurer qu'il est bourré de très belles astuces.
Avant d'en venir au carpaccio de champignons, une recette que j'ai trouvée assez géniale, riz et boulettes. On met le riz cru au fond d'un plat badigeonné d'huile d'olive. On dispose dessus des boulettes de viande crue, un mélange de bœuf, veau, chair à saucisse, pain, œuf. On arrose de coulis de tomate, ça cuit 30 minutes, c'est qu'on n'a pas besoin de pré-cuire le riz. Bah ouais, c'est tout bête. Laura recommande de le servir en cocotte individuelle. Les enfants adorent avoir une petite cocotte. Les ados, ils réchauffent eux-mêmes la cocotte au four s'ils ont des horaires un peu décalés. Et j'ai trouvé ça vraiment très très convaincant comme recette.
Une remarque, est-ce que je vous ai...
Non mais juste, un bouquin moi qui est préfacé par Bénédicte Baugé, je dis ok.
On est d'accord, vous nous rappelez qui est Bénédicte Baugé.
C'est un des écrivains et des historiens de l'alimentation française les plus pertinents.
Oui. On le salue,
spécial tribut.
Bénédicte Baugé.
Et souvent auteur, co-auteur d'Ali de Michel Troisgros.
Exactement.
Voilà. Absolument.
Carpaccio de champignons aux graines de grenade, recette toute bête. Là c'est l'idée que cette recette n'a rien de particulier, n'est pas spécialement enfantine. C'est qu'elle est suffisamment jolie, colorée et élégante pour que ça puisse...
J'ai le droit de taper dedans, ou pas ?
Bien sûr. Un quart de pomme de grenade, 4 gros champignons blancs, 4 brins de ciboulette. Moi, j'ai mis du persil plat parce que je n'avais pas de ciboulette. 2 cuillères à soupe de sauce tartare que je vais vous expliquer, un petit peu de citron.
On sent bien le tahiné, là.
Ouais. Trop ? C'est trop sésame ?
Non, c'est parfait.
Alors ?
Non,
voilà.
Vraiment, c'est bien.
On épluche les champignons si besoin. Enfin, on les passe sous l'eau. On enlève le pied un peu terreux. Parce qu'en principe, le pied doit être terreux. Hein, si on n'a pas des... On le détaille en fines lamelles et on assaisonne de sauce tartare. Et on dispose des grains de grenade et le persil haché. C'est aussi bête que ça.
Et la recette est en ligne sur franceinter.fr, la page On va déguster.
C'était bon ?
J'ai envie de vous piéger. Oui. Délicieux, mais j'ai envie de vous piéger, Elvira. Parce que vous ne nous avez pas parlé, vous, de votre contexte familial, de vos petites madeleines d'enfance.
C'est un peu tard, il est en 57. Non, j'ai une recette... j'ai pas mal mangé, je mange encore de recettes suédoises.
Et oui.
Et j'ai une recette qui m'a été transmise par ma mère, qui s'appelle Hannas Franska Äppelkaka, qui veut dire gâteau aux pommes français, alors qu'il n'y a rien de français, de Hanna.
C'est gourmand,
c'est en gros
hein.
De
vous
la...
nous le redites en suédois.
Hannas Franska Äppelkaka.
On demandera à Eva Masson, si elle valide cette recette.
Compote de pommes bien mixée, que l'on chapeaute de crème d'amande, amande en poudre mélangée avec du sucre, du beurre et des œufs, avec le zeste d'un citron. Et ça fait de la compote de pommes avec une croûte de crème d'amande. Ça passe au four 30 minutes.
Une zorce
sans
de
farine.
Splendide. On n'a pas le temps malheureusement pour la recette de poire au vin de Eric Roux, mais elle est en ligne également, ou en deux gestes, vous avez le choix.
Poire au vin, simple, un vin efficace, paysan, goûteux, qui roule pas des mécaniques, un soupçon de sucre, je fais évaporer l'alcool, je trempe dedans des poires qui ont du goût et qui sont juteuses comme des doyennés du comice.
Et qui sont épluchées.
Je laisse cuire, allez, 20 minutes.
Et Zou, vous vouliez dire quelque chose sur la fête de la gastronomie ?
Oui, il y a quand même 11 000 manifestations en France. Et juste, il suffit d'aller, vous tapez fête de la gastronomie sur Internet, on tombe sur le site, vous tapez l'endroit où vous êtes et vous trouvez ce qui se passe à côté de chez vous. Allez-y, faut mettre le foutoir.
Grande Masse, on ira 23, 24 et 25 septembre dans toute la France. GrandeMasseProject.org pour retrouver des recettes de grand-mère.
Bravo,
en film.
Jonas.
Et présenter des candidatures aussi pour filmer sa propre grand-mère.
Contribuer,
c'est une bonne idée. Bravo, sous l'égide de l'UNESCO.
Juste,
Arnaud Daguin.
Juste un mot pour les Parisiens, pour la fête de gastronomie, à la recyclerie. Donc, vous connaissez cet endroit formidable. On va parler d'agroforesterie et de valeur des produits alimentaires. C'est jamais superflu.
Y aura-t-il notre ami commun, Alain Canet ?
Il y aura sans doute Alain Canet et moi-même, si vous arrivez à me supporter.
Le pape de l'agroforesterie en France est une bonne initiative. Dans un instant, après le flash de midi, on retrouve Nicolas Demorand et son équipe pour Questions politiques. La semaine prochaine, c'est Ricardo, un cuisinier star au Québec, qui débarque dans notre studio pour faire ses meilleures recettes. À dimanche prochain. Salut à tous. À dimanche prochain.
Salut, bye bye.
Si vous avez encore faim.